Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur Radio Dragon 96.8 et 104.4 et Campus Grenoble 90.8.
Aujourd'hui, nous vous présenterons le roman La cinquième saison de N.K. Jemisin, paru en 2015 sous le titre original The Fifth Season et en 2017 dans la traduction française de Michel Charrier. L'autrice africaine-américaine Nora Kita Jemisin, plus connue en tant que N.K. Jemisin, est née en 1972. Elle grandit et étudie dans différents États des États-Unis, allant du sud au nord, et s'installe finalement à New York, une ville à laquelle elle est très attachée. Jemisin est diplômée en psychologie et en éducation et travaille quelques années comme conseillère. En 2002, elle décide de gagner de l'argent avec la publication de nouvelles, l'écriture de littérature de l'imaginaire étant depuis longtemps l'une de ses passions.
En 2002, je savais qu'en tant que noire attirée par la SF et la fantasy, je n'avais pratiquement aucune chance d'être publiée, remarquée par les critiques ou acceptée par un lectorat qui, apparemment, n'avait envie de lire que des variations sans fin sur l'Europe médiévale et la colonisation des Amériques. J'aurais pu me lancer dans mes propres variations sur l'Europe médiévale ou la colonisation des Amériques, bien sûr. J'aurais sans doute dû, pour rembourser mon prêt plus vite, mais ça ne m'intéressait tout simplement pas. Je voulais faire quelque chose de neuf.
Elle s'inscrit alors dans un atelier d'écriture et 2 ans plus tard, elle publie sa première nouvelle. En 2010, elle sort son premier roman, Les 100 000 royaumes, qui fait partie de la trilogie de l'héritage, récompensée par le prix Locus du meilleur premier roman et le World Fantasy Award. Depuis, elle continue à publier des romans et nouvelles de science-fiction et de fantasy. En 2015, 2016 et 2017 paraissent les 3 tomes de la série de la Terre fracturée, pour lesquels elle obtient 3 ans de suite le prix Hugo pour le meilleur roman. On vous parlera ici du premier tome, la 5e saison. Pendant quelques années, elle écrit la chronique de science-fiction et fantasy Otherworldly pour la New York Times Book Review et sur son blog, elle discute des thématiques féministes et dénonce le racisme, notamment dans le monde de la littérature de l'imaginaire.
La 5e saison est le premier tome de la trilogie des livres de la Terre fracturée, qui décrivent une Terre où il n'y a plus qu'un seul continent, secoué par une activité sismique très importante. Dans ce contexte, les habitants-habitantes de ce continent, appelé le Fixe, vivent sous la menace permanente d'une 5e saison. Ces 5e saisons surviennent après une grosse irruption volcanique ou un tremblement de terre, quand une couche de cendres enveloppe la terre et génère une nuit hivernale qui peut durer des dizaines, voire des centaines d'années. À plusieurs reprises, l'humanité a réchappé de justesse à ces terribles épisodes géologiques. Mais dans cet univers vivent aussi les orogènes, des personnes qui ont la faculté d'agir sur la terre et d'empêcher des séismes. Mais quand les orogènes maîtrisent mal leur pouvoir, Yel peuvent aussi refroidir l'air qui les entoure, geler des personnes sur place, ou, sous le coup de la colère, provoquer des tremblements de terre et tuer des dizaines de personnes. Alors, les orogènes sont stigmatisés et traités de gêneurs. La 5e saison raconte l'histoire de 3 femmes orogènes de 3 générations différentes. Damaya, une enfant qui découvre son pouvoir, qui est arrachée à sa famille et va entrer au Fulcrum, l'école d'Orogénie. Sienit, jeune adulte qui travaille pour le Fulcrum et doit accompagner un maître de l'Orogénie pour accomplir une mission sur la côte. Et enfin, Essun, quadragénaire, qui cachait jusqu'ici ses pouvoirs à tout le monde et dont le mari vient d'assassiner son fils en découvrant qu'il est un jeune orogène, puis s'est enfui en kidnappant sa fille. Alors qu'une cinquième saison vient d'être déclarée et que le climat se fait de plus en plus menaçant, Esun part à leur recherche. Jamie Zinn a fabriqué dans les livres de la Terre fracturée un univers unique, singulier, qui tient très bien la route. C'est à la fois un univers un peu fantastique, car les orogènes sont dotés de pouvoirs spéciaux, presque magiques. Et de l'autre, on trouve dans le roman une dimension très scientifique, avec des descriptions assez précises autour de la tectonique des plaques. Un mélange qui a permis d'attribuer au roman le genre de la science-fantasy.
Voici le fixe, qui n'est jamais fixe, même les bons jours. Le fixe ondule, répercute le cataclysme. Une ligne se dessine d'est en ouest, trop droite, presque parfaite, qui ne doit manifestement rien à la nature et englobe la ceinture terrestre équatoriale. Son point de départ n'est autre que la cité de l'humaine. Cette ligne brutale, profonde, coupe la planète jusqu'au sang. La braise rouge du magma libéré s'accumule dans son silage. La Terre est douée pour se soigner. La blessure cicatrisera vite, en termes géologiques. Puis l'océan purificateur suivra la faille et divisera le fixe en deux masses terrestres. En attendant, la plaie suppurante ne laissera pas seulement suinter une chaleur brûlante, mais aussi des gaz, des poussières, des cendres foncées. De quoi voiler en quelques semaines le ciel sur l'ensemble du continent.
Le mélange entre science et fantasy est surprenant. On pourrait croire ces deux dimensions comme opposées, mais Jamie Zinn les articule super bien ensemble. La science n'explique pas vraiment le fonctionnement de l'orogénie, mais donne plein d'indications sur la manière dont l'orogénie intervient dans les forces et les mouvements terrestres. Dans cet univers, les séismes et les volcans réguliers ont inspiré une croyance autour de l'existence du Père Terre, qui vient faire un décalage rigolo par rapport à cet imaginaire de la Terre-Mère. Même s'il y a ici un côté critiquable, car la Terre-Mère est associée en général à la création et à la naissance, et qu'ici le Père Terre relève de la violence et de la destruction, ce qui reste assez normatif, j'ai trouvé tout de même ça intéressant, ce décalage, où la planète pourrait très bien être habitée d'une entité masculine.
Notre Père Terre savait qu'il aurait besoin d'une vie intelligente. Aussi utilisa-t-il les saisons pour nous façonner à partir des animaux. Des mains habiles capables de fabriquer des choses, des esprits habiles capables de résoudre les problèmes, des langues habiles capables de créer la collaboration, des Valupinae habiles capables de nous prévenir en cas de danger. L'humanité devint ce dont le Père Terre avait besoin.
Cette réalité géologique impacte l'organisation sociale. Les villes sont toutes petites et s'appellent des coms. Elles amassent des réserves pour se préparer à une éventuelle cinquième saison. Elles sont cloisonnées et organisées selon des castes et des rôles sociaux très précisément définis selon des croyances dans l'objectif de survivre aux cinquièmes saisons. Ainsi, il y a des personnes assignées à la défense, certaines à l'innovation ou au pouvoir, et même à la reproduction, ces personnes étant considérées comme ayant de bons gènes à transmettre. Le nom de la com et les castes d'appartenance sont utilisés comme nom de famille et elles fabriquent une hiérarchie bien formelle.
« Tu n'as rien à craindre, » dit-il de sa voix grondante, de plus en plus proche. « Je suis ici pour t'aider, Damaya Kostod. » Elle déteste aussi son nom d'usage, qui ne lui va pas mieux qu'à la mère. Il ne signifie qu'une chose, ses ancêtres féminines ont eu la chance de se joindre à une com, mais ne sortait pas assez du lot pour y gagner une position plus sûre. « Quand les temps sont durs, on se débarrasse des costauds aussi bien que des Orcom », lui a un jour dit Chaga, son frère, pour l'énerver. Et puis il s'est mis à rire, comme si c'était drôle, comme si ce n'était pas la pure vérité. Évidemment, Chaga est un résistant, il tient ça du père. Les Com aiment avoir des résistants, que les temps soient durs ou non, au cas où se déclencherait une épidémie, une famine, ce genre de choses.
Il y a aussi des statues à part. Les orogènes, bien sûr, mais aussi des mnésites, des géomestres et des hors-coms, des personnes rattachées à aucune com, exclues et exploitées.
Vous avez déjà vu des hors-coms, bien sûr. Tout le monde en a déjà vu. Les villes qui cherchent des ouvriers à bas prix, et où les costauds n'ont pas de syndicats assez puissants, permettent à ces malheureux d'occuper des bidonvilles et de mendier dans la rue. Ailleurs, ils vivent entre les coms, en forêt, à la limite des déserts, ce genre d'endroit. Ils subsistent grâce à la chasse, dans des campements construits de briques et de brocs. Ceux qui ne veulent pas d'ennuis pillent les champs et les silos périphériques des coms. Ceux qui aiment la bagarre s'attaquent aux petits villages mal défendus et aux voyageurs circulant sur les routes des cartons les moins importants. Les gouverneurs s'en fichent, à condition que les brigands n'en fassent pas trop. Grâce à eux, la population reste vigilante et les fauteurs de troubles en conscience de ce qui risque de leur arriver.
Par contre, ce n'est pas clair de qui détient le pouvoir à l'échelle du fixe. Il y a bien un empereur, mais peut-être est-il sous le contrôle de l'école d'orogénie? Ou bien celle-ci est-elle subordonnée aux gardiens? Ça a été une année difficile, n'est-ce pas? Pas mal d'années difficiles. Un siècle difficile. Pour certains, certaines d'entre nous, les choses ont toujours été difficiles. J'ai écrit la trilogie de la Terre fracturée pour parler de cette lutte, de ce que cela demande, déjà, juste pour vivre, sans parler de prospérer, dans un monde qui semble déterminé à vous briser. Un monde plein de gens qui remettent constamment en doute votre compétence, votre pertinence, votre existence même.
C'est par ces mots que N.K. Jemisin commence son discours à la réception du prix Hugo 2018 pour le troisième tome de La Terre fracturée. Dans l'univers qu'elle crée pour cette série, l'organisation sociale repose en effet sur un système bien rodé de domination et d'exploitation. Les orogènes sont considérées comme non humaines, et elles sont confrontées à l'exclusion sociale et à la haine qui peut aller jusqu'au meurtre. L'unique moyen pour les orogènes de trouver une position sociale acceptée est de rejoindre l'ordre du fulcrum, où elles sont formées à maîtriser leurs pouvoirs et à les utiliser de manière très contrôlée et ciblée. Un enfant orogène peut naître de parents fixes, c'est-à-dire non orogènes, et souvent son orogénie mal maîtrisée se déclare dans une situation où l'enfant est sujet à des émotions très fortes, comme la peur ou la colère. La plupart du temps, l'enfant est alors rejeté par ses parents qui, dans le moins pire des cas, appellent un gardien du fulcrum pour le récupérer.
Damaya leur avait caché ça. Voilà ce que disait la mère. Damaya leur avait tout caché. Elle avait fait mine d'être une enfant alors qu'elle était en réalité un monstre. Les monstres faisaient toujours mine d'être des enfants. La mère savait bien que quelque chose clochait chez Damaya, cette sale petite menteuse. L'homme secoua la tête. Quoi qu'il en soit, il faut la protéger du froid. La température va augmenter à l'approche de l'équatorial, mais le voyage va nous prendre des semaines. La mère serre les dents. Vous l'emmenez vraiment à l'humaine, alors ? Évidemment, je... Il la considère avec attention. Ah ! Puis il se tourne vers Damaya. Il la regarde tous les deux, démangeaison jumelle. Vous pensiez que j'allais tuer votre fille ? Mais vous m'avez quand même fait appeler par le chef de com. Ne dites pas ça, proteste la mère, raidie. Ce n'était pas, je ne voulais pas. Ses mains se crispent à ses côtés. Elle baisse la tête, l'air honteuse. Mais elle ne l'est évidemment pas. La mère n'a jamais honte de ce qu'elle fait. Sinon, pourquoi le ferait-elle? Les gens normaux ne peuvent pas s'occuper de ces gamins-là, reprend-elle tout bas. Ses yeux se posent sur Damaya, mais s'en détournent aussitôt. Elle a failli tuer un copain à l'école. On a un autre enfant, des voisins, des... Elle redresse brusquement les épaules et relève le menton. Et puis, c'est le devoir des citoyens, non? Exact, parfaitement exact. Votre sacrifice rendra le monde meilleur pour tout un chacun. Simple stéréotype flatteur, alors que le ton ne l'est absolument pas.
Le fulcrum semble être un espace plus safe pour les orogènes. Mais une fois formés à maîtriser leur pouvoir, les orogènes du fulcrum sont envoyés dans des missions qui consistent la plupart du temps à contrôler et à prévenir l'intense activité sismique du continent, ce qui n'est pas sans danger. IEL sont alors considérés comme des simples outils exploitables pour la sécurité des humains.
Parce que tu crois que toi, tu as la moindre importance ? Un brusque sourire étire ses lèvres, hideux, aussi froid que la vapeur bouclée qui s'élève de la glace. Tu crois qu'aucun d'entre nous a la moindre importance, sinon par l'utilité qu'on a pour eux, qu'on obéisse ou pas ? Coup de menton en direction de l'enfant maltraité, assassiné. Tu crois qu'il en avait, après ce qu'il lui avait fait ? La seule raison pour laquelle ils ne nous le font pas à tous, c'est qu'on est plus polyvalent, plus serviable quand on se contrôle. Mais à leurs yeux, on est juste des armes, des monstres utiles. Un peu de sang neuf à ajouter aux lignées de putains de gêneurs.
Vous êtes toujours sur Radio Dragon et Campus Grenoble avec Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous présente le roman La cinquième saison de N.K. Jemisin.
Dans le roman, on suit trois personnages orogènes d'âge et de vie très différentes. On découvre la vie et la formation au fulcrum à travers les yeux d'une enfant qui est encore à ses premières expérimentations orogéniques. On suit une jeune adulte formée pour sa première mission et on rencontre une orogène quadragénaire qui s'était planquée incognito dans une petite ville. À travers ces différentes situations, on comprend assez bien ce que cela veut dire d'être orogène dans un monde globalement hostile, où toute forme de sécurité est toujours relative. Une autre chose que Jemisin raconte hyper bien, c'est ce pouvoir absolument tripant qu'est l'orogénie. Au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, on arrive vraiment bien à se représenter comment elles tendent leur sens vers la Terre, comment elles perçoivent les différents éléments géologiques et interviennent sur les mouvements sismiques, ou en provoquent d'autres. Et surtout, on sent vraiment bien quelles forces incroyables elles doivent mobiliser et que tout l'enjeu est de rééquilibrer ces énergies pour ne pas faire tout péter.
L'orogénie est une curieuse équation. Extrayez le mouvement, la chaleur et la vie de votre environnement, amplifiez-les par un procédé indéfinissable de concentration, de catalyse ou de hasard plus ou moins prévisible, tirez et éloignez de la Terre le mouvement, la chaleur et la mort. Énergie entrante, énergie sortante. Empêchez de sortir celle qui était entrée, ne pas transformer la nappe aquifère de la vallée en geyser, ne pas réduire la roche en éboulis, à exiger de vous un effort tel que vous en avez mal aux dents et derrière les yeux. Si longtemps que vous ayez marché, dans l'espoir de brûler une partie de la force emmagasinée, elle est toujours là, à fleur de peau, malgré votre fatigue physique et vos pieds douloureux. Vous êtes une arme censée déplacer les montagnes. Il ne suffit pas de marcher pour cesser de l'être. Jemisin montre l'organisation sociale autour des orogènes de façon à pointer le racisme de la société. Ses choix narratifs, vis-à-vis des personnages, sont aussi engagés sur les questions du racisme. Déjà, la majorité des personnages principaux sont racisés. Et globalement, ceux-ci sont décrits avec complexité et nuance. Il y a dans ce roman une multitude de couleurs de peau ou de caractéristiques physiques. L'autrice ne s'appuie donc pas sur des évidences et des imaginaires stéréotypés.
La femme s'appelle Essun. Elle a 42 ans et ressemble à la plupart des moyennes. Grande quand elle se redresse, le dos droit sous un long cou, dotée de hanches qui ont porté deux enfants sans difficulté, de seins qui les ont nourris sans difficulté, de mains à droite et robustes. Elle a l'air solide, bien en chair. Des qualités appréciées dans le fixe. Ses cheveux entourent son visage de boucles rêches serrées, à peu près du diamètre de son petit doigt, d'un noir virant au brun à la pointe. Sa peau est d'un ocre sombre, déplaisant d'après certains critères. D'un olive pâle, déplaisant d'après d'autres. Les Luméniens appelaient les gens comme elle des bâtards des moyennes. Ils sont assez sansiens pour que ça se voit, pas assez pour que ça compte.
Ces caractéristiques physiques induisent aussi des discriminations et des privilèges, la société étant hiérarchisée selon ces critères. Ainsi, les sansiens sansiennes, qui ont la peau claire et les cheveux lisses, ont plus de pouvoir et de reconnaissance. Elles peuvent facilement rejoindre une nouvelle com ou obtenir des postes clés, alors que les moyens sud et les côtiers sont plus stigmatisés et ont moins accès au pouvoir.
Alors que la société semble bien être basée sur une organisation binaire en termes de genre et sur des familles hétérosexuelles, le roman met en scène une multitude d'identités de genre et d'orientations sexuelles. Il y a des personnages qui ont changé de sexe et qui modifient leur apparence physique à l'aide de potions pour réduire la pilosité, entre autres. Il y a des gays, des bi et des lesbiennes, et des relations intimes qui prennent des formes diverses, qui ne sont pas figées et qui peuvent changer dans le temps ou selon les contextes. Ça concerne des personnages et des relations qui se trouvent au centre du récit, et pour ne pas spoiler, je n'en parlerai pas plus ici. Mais c'est aussi présent de manière plus anodine dans une remarque ou une description quelconque, comme ici, quand Damaya décrit la poussière qui est la classe des plus jeunes au Fulcrum.
La poussière diffère par l'âge, la couleur, la constitution. Elle parle le sans-mat avec des accents différents, parce qu'elle vient de régions du monde différentes. Une des filles a les dents pointues, car il est de coutume parmi les siens qu'on les lime. Un des garçons n'a pas de pénis, mais fourre une chaussette dans son slip après la douche. Une autre fille, qui faisait rarement 3 repas par jour, engloutit tout ce qu'elle peut comme si elle mourait toujours de faim.
Cette manière de rendre la diversité genrée et sexuelle présente sans en faire tout un plat est agréable. Cela permet aussi à Jamison de créer par exemple un héros masculin complexe et impressionnant, mais vraiment pas viril du tout. Ou des relations difficiles à définir, ce qui ne les rend pas moins intenses et intrigantes. Bien au contraire. L'autrice raconte tout ça d'une manière qui rend compliqué de penser dans des catégories fermées. Et c'est bien ça qui est beau. Dans un article sur son blog intitulé « On Family », sur la famille, Jamison parle d'ailleurs de ces liens qu'elle a voulu développer entre ses personnages. Elle parle de la famille noire, non pas d'un stéréotype essentialisé et fétichisé, mais de l'endroit où on peut créer des liens pour se rendre plus fort ensemble contre un extérieur hostile.
Je parle de vraie famille. Comment les gens grandissent, se protègent, et survivent ensemble lorsque leur statut de personne même est remis en question. Comment l'amour se camoufle quand il est constamment menacé.
Jamison est très attentive aux émotions qui régissent les interactions entre les personnes. Notamment le personnage d'Esun pousse assez loin l'analyse de ce qui se joue entre les gens, de ses propres émotions, de ses besoins ou peurs, et des réactions que celles-ci induisent. Quand Jamison parle de famille, ce n'est donc pas spécialement d'une entité parent-enfant, mais plutôt des personnes auxquelles on se lie suite à des expériences qui nous inspirent confiance, des personnes sur lesquelles on a appris à compter, les personnes auxquelles nous lie un engagement réciproque de prendre soin les unes des autres. Dans son roman, elle raconte avec beaucoup de finesse le processus long et complexe pour former ce type de lien.
Le roman est accompagné d'un glossaire situé tout à la fin, après une chronologie des 5e saison les plus importantes. La première fois que j'ai lu le livre, j'avais du mal à comprendre tous les termes et je galérais un peu dans la lecture. Mais je n'avais pas découvert le glossaire. Alors je me dis qu'il rend le livre un peu plus accessible et évite de bloquer sur tous les termes spécifiques à l'univers. Il permet aussi différentes lectures. Les personnes qui aiment être un peu perdues et découvrir l'univers petit à petit peuvent tout aussi bien ne pas le consulter. Il n'est vraiment pas nécessaire à tout le monde, mais il peut être d'une grande aide.
Pour finir, j'ai quand même envie de dire deux mots sur la traduction française que je ne trouve pas toujours très réussie. Plusieurs fois, j'ai bloqué sur des phrases pas très fluides. J'avais l'impression de sentir l'anglais derrière, comme s'il manquait un dernier passage du travail de traduction qui ne se fait jamais en une seule fois. Vu le type de best-seller dont il s'agit ici, c'est possiblement le résultat de délais trop serrés pour avancer la publication. Mais il y a aussi des choix de traduction que je trouve questionnables. Pour donner un exemple, tous les chapitres racontés du point de vue de Esun sont écrits à la deuxième personne. En anglais, c'est donc « you ». Ça crée une relation assez étrange entre la narration et les lectrices, mais ça m'a beaucoup plu. En français, il faut donc décider s'il s'agit de « tu » ou de « vous ». La traductrice ici a choisi le « vous », ce qui crée une plus grande distance avec le personnage. Je ne suis pas complètement convaincu par ce choix.
En guise de conclusion, on avait envie de redonner la parole à l'autrice elle-même avec un autre extrait de son discours pour la remise du Hugo 2018. Pour en profiter un max, il faut bien visualiser le trophée du prix Hugo qui est en forme de fusée.
J'ai souri et acquiescé lorsque des rédacteurs de magazines bien intentionnés m'ont conseillé d'atténuer mes allégories et ma colère, ce que je n'ai pas fait. J'ai serré les dents lorsqu'un écrivain reconnu s'est lancé dans une tirade de 10 minutes à mon encontre, comme si je représentais la totalité des Noirs pour avoir mentionné la sous-représentation dans les sciences. J'ai continué à écrire, même si mon premier roman a d'abord été rejeté en prétextant que seuls des Noirs voudraient lire l'œuvre d'une écrivaine noire. J'ai élevé ma voix pour répondre à des conférenciers qui essayaient de m'expliquer ma propre vie. Je me suis battue contre moi-même et contre la petite voix intérieure qui me murmure constamment, encore et toujours, que je devrais baisser la tête, me taire et laisser parler les vrais écrivains. Mais cette année, je vais pouvoir sourire à tous ces rabat-joie, à tous ces aspirants médiocres et insécurisés qui veulent me raconter que je n'ai pas ma place sur cette scène, que des gens comme moi ne peuvent pas mériter un tel honneur, que lorsque eux y gagnent, c'est du mérite, mais que lorsque nous nous gagnons, c'est de la politique identitaire. Je vais pouvoir sourire à ces gens et leur faire un énorme doigt d'honneur en forme de fusée.
C'était le 16e épisode de Vortex et Rotative sur le roman La cinquième saison, le premier tome de la trilogie « Les livres de la Terre fracturée » de N.K. Jemisin, paru en 2017 dans la traduction française de Michel Charrier, aux éditions Nouveau Millénaire, et 2 ans plus tard, en livre de poche.
Ce premier tome, qui peut se lire indépendamment des 2 autres, fait 523 pages en version poche. Il a gagné le prix Hugo du meilleur roman 2016, ainsi que le Sputnik Award et le Prix Planète SF des blogueurs 2018.
Une adaptation de la trilogie pour la télévision a été annoncée en 2017, ainsi qu'une adaptation en jeu de rôle sur table en projet depuis août 2019.
Cette émission a été montée avec des bouts de musique de Judith Juillera.
Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.